Samouraï, les Nantais ont des choses à écrire sur Jet FM 91.2.
Devant mes yeux se joue une scène des plus amusantes. J'hésite d'emblée entre foutoir et pagaille, qui, bien que synonyme, comporte une nuance dans le degré de désordre proposé. J'avais tout à l'heure imaginé une fourmilière, et bien c'est tout à fait ça, sauf qu'un type est arrivé à refiler un énorme coup de tatane dans l'édifice, et que les ouvrières courent partout de manière complètement désorganisée. Je fais un tour rapide de la zone avec mes jumelles. Plusieurs catégories semblent représentées à ce que je vois et imagine, je ne suis pas non plus au cœur de l'action. Tout à droite se trouve un train, un TGV à l'arrêt, telle une vipère morte, piégée par la meute d'insectes avides qui, une fois la mise à mort effectuée, démarreraient leur travail de nettoyage de la zone via un scrupuleux grignotage. Le train est assez loin de la zone centrale, celle qui m'intéresse le plus, car va faire arrêter un train en quelques mètres. Comme on est en sortie de courbe et pas trop loin de l'arrivée en gare de Nantes, le TGV n'était pas à bloc, mais quand même, ça a dû freiner sec. Dirigeant mes loupes vers les vitres, j'aperçois qu'à l'intérieur, on est plus proche d'une criée au retour des chalutiers que d'une séance collective de méditation vipassana. Ça grouille, ça s'excite, ça parlemente, ça gueule. En playback, j'ai l'image seulement. Je me mets à la place des passagers. Les types étaient à 10 minutes maxi de l'arrivée à destination. Ça commençait à ranger les sacs à main, choper les valises, rabattre les tablettes, mettre les blousons, vider les canettes avant de les jeter, déposer une dernière pêche à la coule histoire d'arriver tout clean. Et là, pan, un type sur la voie. Et c'est parti pour le protocole. Des flics partout, personne ne sort, restez assis messieurs dames, ça va pas être long. Le personnel fait son possible pour établir des conditions permettant de terminer votre trajet, etc. Tu parles, comme d'hab avec la SNCF, zéro info, ça traîne, que des types largués, limite en panique. Panique qui devient vite contagieuse. Et là, tu as un moins patient qui commence à pousser la gueulante, vite rejoint par quelques voisins qui n'attendaient qu'une chose, qu'un suffisamment burné y aille pour lui filer le train. Et tombé à bras raccourcis, comme disait mon père pour me faire rire, sur l'employé à costard et casquette informe qui tente malgré tout de gagner du temps en rêvant de donner une nouvelle orientation à sa carrière, un job sans contact avec ses semblables surtout. Bref, ils ont intérêt à faire vite repartir la loco avant que ça ne tourne à la baston générale dans les wagons. Ça, c'est pour l'intérieur.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors, le public nantais vous connaît depuis 2020 lorsque vous sortez votre premier roman, Le Sacrifice des Oubliés, qui remporte le prix du Polar Ouest France.
C'est ça.
On y fait la connaissance de votre héros, un jeune journaliste nantais à la fin des années 90, en quête d'un scoop, d'une histoire croustillante qui rêve du prix Pulitzer. Il s'appelle Livius Carmin, c'est un personnage très sympathique pour qui aime l'ironie, le sarcasme et les bonnes réparties. Mais c'est un personnage qui a aussi des failles, des blessures plus anciennes et qui ne sont pas révélées d'emblée dans le premier roman, mais que l'on découvre plus tard dans « Que la peur te sublime » en 2021 et dans « Pour en finir » en 2023. Alors, ça nous laisse penser que vous aviez déjà l'idée d'en faire une série. Alors, ce personnage, depuis combien de temps il existe dans votre esprit et comment en êtes-vous venu à le faire exister sur le papier ?
Eh bien, comme je dis souvent, j'ai mis 45 ans à écrire le premier livre. Donc l'idée de départ et de fin du premier livre, Le Sacrifice des Oubliés, je l'ai en tête depuis le lycée peut-être, où je me dis, tiens, ce serait sympa de faire ça, comme ça. Et puis, je fais autre chose, je fais mes études, je fonde une famille, je vis, et puis j'avance en âge, et je me dis, bon, à quel moment tu vas faire ce livre ? Parce que j'écris des choses de ci, de là, on me dit, oh, tiens, c'est sympa ce que tu fais, etc. Et un jour, je démarre ce livre avec un héros policier. Et j'écris 30 pages. Bon, je ne suis pas satisfait. Donc je me dis, bah non, il faut que je fasse autre chose. Donc ça va être un journaliste. Et c'est là que le journaliste naît, en fait. Donc je lui trouve un prénom un peu latin, parce que je voulais du latin. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, je me réveille le matin, je dis, tiens. Si je mettais un prénom latin, je mets un prénom latin. Carmin, parce que c'est rouge, c'est un peu révolutionnaire. Voilà, c'est un peu mes idées. Et puis après, bah, je me suis un peu laissé porter. Je me dis, bon, il a 25 ans dans les années 2000, à peu près comme moi. Il va habiter Nantes. Il va avoir telle voiture, une AX Air France Madame, un peu comme moi. Voilà, et puis, bon, donc j'ai mis des parts de moi. Et puis, je lui ai quand même créé un toute une histoire, une histoire familiale. Par exemple, il a un grand-père, moi j'ai pas connu les miens, donc voilà, il y a des choses comme ça qui lui appartiennent, puis il y a des choses qui sont quand même un peu issues de mon expérience et de ma vie.
Donc effectivement, il est aidé de son grand-père dans ses enquêtes, Livius Carmin. Il est aussi aidé par son ami David Durieux. Grâce à leur aide, il parvient à résoudre deux enquêtes palpitantes, mais il y laisse quand même des plumes. Et dans le troisième roman, Livius quitte Nantes pour aller en Bretagne. Il quitte cette ville qu'il aime tant, qu'il connaît par cœur, que vous connaissez par cœur certainement. Parce que c'est vrai qu'en lisant, le lecteur nantais se régale. Hein. Il arpente avec Livius les rues de Nantes et il fréquente tout autant de bars emblématiques des années 1990. Il y a aussi même des références à Julien Gracq, à La forme d'une ville. C'est dire toute la tendresse et la gratitude que vous éprouvez à l'égard de cette ville. Alors, est-ce que c'était votre volonté de partager ce lien que vous entretenez avec la ville de Nantes?
Oui, quand je me suis dit où est-ce que tu vas situer ton histoire. J'aurais pu faire Paris, New York, comme beaucoup font, mais je dis, bon, bah, je connais Nantes, donc autant parler de Nantes. Alors, ça peut paraître tout petit, Nantes, ça peut paraître grand quand on vient de la campagne ou du bord de mer, ou voilà, ça paraît tout petit quand on vient de Paris ou d'ailleurs, mais voilà, je me disais, c'était assez riche quand même, il y a plusieurs quartiers, il y a des rues avec des noms un peu sympas qu'on peut décrire, il y a des monuments, et on peut mettre du mystère là-dedans. On peut mettre de l'intrigue, on peut... Et j'ai un héros qui circule beaucoup à pied, qui prend les transports, ça lui permet d'entendre des choses très drôles, mais comme dans la vraie vie, quoi. Vous faites un aller-retour de tram et ça y est, vous avez une demi-idée de livre. Et donc Livius, il marche beaucoup, il décrit ce qu'il voit, il passe sous la Tour Bretagne, s'il la trouve moche, il dit que c'est moche, et voilà, c'est un peu cinématographique. On ne s'éternise pas parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop de descriptions. Je voulais surtout du dialogue et puis de l'action. Et donc voilà, donc il écrit à sa façon. Je mets un peu de culture. Effectivement, je parle de Julien Gracq, je parle de telle rue qui porte tel nom. Pourquoi rapidement, quoi. C'est toujours pour faire une petite blague parce que Livius aime bien ça, quoi, les jeux de mots, les calembours et tout ça. Et donc, c'est l'occasion. Et je voulais refaire revivre un endroit particulièrement dans le premier livre. C'était une boutique, petite boutique du passage Pommeraye qui était un philatéliste. Enfant, j'ai toujours fasciné parce que je trouvais que c'était un capharnaüm sans nom. Et le type avait l'air de s'y retrouver, ce qui me fascinait encore plus. Donc voilà, donc, je me suis dit à un moment, tiens, j'ai besoin d'un lieu un peu sympa.
On s'en souvient
donc,
tous de cette
voilà,
boutique,
passage ouais. Pommeraye. Je me dis, en plus, le passage Pommeraye, c'est un peu emblématique. Et voilà. Et dans le deuxième, effectivement, j'explore un peu les bords de l'Erdre, j'explore un peu ailleurs. Donc oui, c'est une façon de présenter Nantes différemment. Les gens qui ne connaissent pas, ça leur donne envie, c'est ce qu'on m'a dit en dédicace ou en salon, ça me donne envie de venir voir comment c'est. Et puis les gens qui connaissent, ça me rappelle tel endroit. Parce qu'en fait, c'est assez fidèle quand même dans la configuration et dans les lieux.
Ouais, on est avec vous, hein. Au petit café justement, au blind test, on a envie de répondre.
Oui, alors après ça c'est quand j'ai emménagé à Rezé en 2010. Et donc, j'ai découvert le petit café qui a ouvert il y a 10 ans, puisque ça va être les 10 ans cette année. Donc, et c'était juste un endroit que j'ai trouvé ultra sympa, avec effectivement les blind tests, les soirées quiz, des concerts, tout ça. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas décrire ça. Donc, sous prétexte qu'un ami d'Olivus habite Rezé, voilà. Et donc, ça a été bien perçu. Les gens du petit café étaient contents de cette petite histoire.
Bah, j'imagine. Alors, un des aspects de votre écriture, c'est aussi la part faite à l'introspection, aux douleurs psychiques, psychologiques, aux blessures intimes. On explore avec vous toute la complexité de l'esprit humain. Livius passe par beaucoup d'états émotionnels. Hein. Il est à la fois enthousiaste, euphorique, en colère, amoureux, abattu, désespéré. Tous ces états, ils sont dus aux aventures qu'il vit, mais aussi à son histoire personnelle. Il y a de nombreux passages... comme je disais, d'introspection, de lieu de refuge imaginaire. On pense à la vague dans laquelle il se retrouve, il se sent bien, il en profite pour approfondir ses réflexions. Mais il n'y a pas que Livius, hein. On est aussi très loin du schéma manichéen des gentils d'un côté et des méchants assassins de l'autre. Tous les personnages, enfin la plupart des autres personnages affichent des histoires complexes de vengeance, de phobie, de mort. Bref, rien n'est jamais simple. Alors... où est-ce que vous allez puiser ? Je crois que j'ai une petite idée. Où est-ce que vous pouvez trouver tant de matériel ?
Oui, alors je précise que je suis un infirmier en psychiatrie. Donc, j'ai travaillé longtemps en pédopsychiatrie pendant une vingtaine d'années. Puis maintenant, je fais des consultations depuis 5 ans. Et donc, les émotions, c'est le quotidien. Comment les gens se racontent, comment ils traversent les épreuves. du mieux qu'ils peuvent à chaque fois. Et puis moi-même qui suis toujours en quête de comprendre un peu d'où je viens et pourquoi j'en suis là aujourd'hui et pourquoi j'en étais là en 2015 et pas aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui il y a ça et si. Et j'essaie toujours de me comprendre parce que je pense que ça m'aide aussi à aider les gens. Donc les émotions au quotidien font que quand il s'agit de les décrire, j'y arrive parce que je les connais, parce que je les ai ressentis. Et puis je voulais effectivement que Livus traverse ça parce que sinon, c'est un personnage, il résout ses enquêtes et on n'apprend rien sur lui, c'est un peu fade, on s'ennuie quoi. Alors que là, Livus, il est complètement humain quoi. Il est parfois très pénible. Parce que si on lit les premiers chapitres de Sacrifice des Oubliés, on se dit il est pénible vraiment quoi. Il parle trop, alors il peut être drôle, mais voilà quoi. Et puis bon, on s'y attache.
Et puis
il est touchant, et puis il a ses failles, et puis il essaie de les combattre. Il va lui-même voir un psychiatre parce que il subit quand même, donc pour y voir plus clair.
Donc la peur te sublime.
Voilà, dans son histoire personnelle, mais ça tourne aussi à la plaisanterie, à la bouffonnerie, quoi. Mais cela dit, il se met quand même au travail, donc il avance. Et puis, au hasard de ses rencontres nombreuses, il se remet en question, souvent. Et puis, il profite de chaque rencontre pour mieux se connaître, en fait. Tout en étant toujours à l'écoute de l'autre et à essayer de comprendre l'autre aussi, quoi. Il est très sensible à ça. Ce qui lui permet de désépaissir certains mystères et de comprendre un peu mieux comment le meurtrier peut faire. Et c'est ça, quoi. C'est pas juste, il y a des faits, j'essaie d'avancer. Voilà, il essaie aussi de comprendre, quoi.
Oui, c'est ça, on essaie vraiment de...
Voilà, il y a la part de l'approche psychique qui l'intéresse, quoi. Et donc oui, mais moi je m'intéresse aussi aux gens en général dans la vie, donc c'est un mix de tout ça qui a fait que j'ai pu créer ce personnage et les autres effectivement, comme vous avez dit, c'est pas manichéen, même la pire crapule, il a quand même son côté un petit peu humain qui fait que voilà. Mais comme dans la vraie vie, alors c'est difficile des fois à défendre comme point de vue, mais c'est mon avis quoi. L'important c'est toujours essayer de comprendre. C'est pour ça que les procès, les jugements sont importants. On entend parfois la vindicte populaire, surtout en ce moment, dire pas de procès, etc. Non, il faut toujours qu'on arrive à comprendre ce qui se passe pour pas que ça se reproduise ou pour essayer d'avancer, quoi.
C'est très palpable à travers le personnage d'Eline.
Oui, ouais. Elle est absolument torturée. On se prend à l'aimer, à la détester, on ne sait pas trop quoi en faire en fait.
On ne sait pas trop quoi en faire, moi je le trouve particulièrement indulgent quand même.
De cette personne, et puis Livus ne sait pas trop non plus quoi. Est-ce qu'il se laisse guider par ses sentiments? Est-ce que la raison l'emporte? Voilà, et comme c'est Livus, il joue et donc il va avoir un peu des deux. Il décide de ne pas choisir et voilà, il va avancer. Mais c'est un personnage qui est très intéressant. Eileen, parce qu'elle a un passé très traumatique, très lourd, et qui fait qu'aujourd'hui, elle en arrive là, sans dévoiler, évidemment. Mais c'est pas rien. Et peut-être que tout le monde ne serait pas arrivé jusque-là. Peut-être elle a réussi ça. Et voilà. Et comment la rencontre avec Livius va peut-être changer deux, trois choses.
Que je tenais à aborder avec vous, c'est les mécaniques un peu, ou les mécanismes de genre littéraire et les registres de langage qu'on attribue souvent au genre littéraire. Alors en dehors de la trame du récit policier, on l'a dit, on sourit beaucoup en vous lisant, en lisant Livius, qui a un sens du comique, enfin vous avez un sens du comique assez aiguisé, le langage est très souvent familier, il y a un franc-parler qu'on attribue souvent à certains polars. Et parmi toutes les caractéristiques qu'on pourrait attribuer justement à certains polars, il y a aussi le regard porté sur les femmes, souvent tendre, mais le plus souvent sexué. Alors je trouve que ce prisme, il était très présent dans le premier roman, beaucoup moins dans les suivants. Alors est-ce que pour écrire un polar, c'est une case à cocher? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez menée? Est-ce que je me trompe?
Non, alors effectivement, on m'a dit le premier polar, le premier Sacrifice des Oubliés, il est très masculin. Il est très masculin, effectivement.
En fait, c'est pour ça vraiment que je...
Il y a très peu de personnages féminins. Il y a une policière et une éventuelle petite amie de Livius qu'on aperçoit. Et puis sinon, d'autres personnages. Mais sinon, c'était très masculin, cette amitié entre Livius et David. Amitié un peu virile, comme on dirait, effectivement. C'était pas... Alors, sur le moment, il n'y a rien de volontaire, en fait.
C'était pas conscient.
Voilà, non, c'était pas conscient. J'écris ça comme ça. Mais progressivement, j'ai eu tendance à féminiser mes livres. Je pense que ça correspond aussi à un cheminement personnel. Et donc, les personnages féminins prennent plus de place, plus d'épaisseur, on va dire. Et c'est pas juste des seconds rôles ou des troisièmes rôles comme dans le premier. Elles sont partie prenante. Et dans le deuxième et dans le troisième. Il y a Aileen qui prend beaucoup de place, donc forcément, et qui devient un personnage tout aussi important que Livius et dans le deuxième et dans le troisième. Et puis dans le troisième, il y a ces trois petites dames là qui ont une soixantaine d'années, qui s'ennuient un peu chez elles et qui sont fans de romans policiers et qui vont enquêter parce qu'il y a une voiture qui brûle dans leur village. C'était important que ce soit trois femmes. Je trouvais que c'était important parce que j'avais envie de développer ces personnages féminins. Voilà, peut-être j'écrirai même un livre avec une héroïne à part entière. Même si, je le répète, Aileen a quand même cette place très à part. Et j'ai adoré créer Aileen et la développer, la faire grandir et la faire vivre. Et je me suis trouvé plutôt à l'aise aussi pour faire vivre des personnages féminins. Et alors, pour le franc-parler, la façon de parler...
le langage un peu grivois aussi, c'est
ouais,
ça.
Oui, parce que à 25 ans, on parle un peu comme ça, on est un peu cash, surtout avec ses copains, et voilà. Mais quand le grand-père parle, il y a une différence de style. Quand le gendarme parle, le policier, il y a une différence de style. C'est ça que je voulais, qu'on sache, sans forcément... on peut ouvrir un peu un moment et on voit à peu près qui parle, quoi. Quand c'est une personnage et quand c'est la concierge de Livius, qui est un personnage assez marrant. Voilà, il faut qu'on puisse les reconnaître. Donc, il y a la façon de parler de chacun, chacune. Alors, c'est pas toujours facile à faire passer, mais je me suis impliqué pour que, justement, on reconnaisse bien les personnages. Parce que sinon, tout le monde parle pareil et tout le monde a un langage soutenu, alors que c'est pas le cas. Tout comme Livius, avec son pote, parle de telle façon. Avec son grand-père, c'est un peu différent. Avec son patron, c'est encore autre chose. Enfin, voilà, quoi. Mais je pense que c'est un peu comme ça.
Dans la vie.
Dans la vie. Donc, c'est pour ça. Je ne voulais pas quelque chose de trop convenu et soutenu, quoi. Alors, ça peut paraître parfois un peu vulgaire, et voilà, mais j'ai eu quelques débats avec mon éditeur Ouest France, que je salue, qui parfois... trouvaient que mes tournures de phrases étaient un petit peu osées.
D'accord.
Donc il a fallu négocier, mais c'est leur rôle et puis moi ça m'allait.
D'accord. Donc c'était un sujet, c'était pas fort. Enfin, je veux dire, c'était pas. Ma question, c'était est-ce que c'était une caractéristique que vous attribuiez au genre de roman policier que vous aviez envie de retrouver? Est-ce que vous aviez certaines influences?
Oui, bah moi j'aime bien le franc parler, même dans la vraie vie. Donc quand le style est trop ampoulé, je dirais, l'histoire va pas m'intéresser. Alors que si il y a un peu de gouaille, il y a un peu de... Voilà, sans tomber dans l'extrême. Après, quand j'étais ado, je lisais San Antonio, qui est quand même et des enquêtes et du dialogue et du langage fleuri, voilà, et le reste. Mais des choses qu'on peut retrouver même dans certains films comme les Tontons Flingueurs ou les Barbouzes, voilà, du franc-parler, un peu d'argot, mais aussi une enquête et du fond derrière, quoi. Voilà. Parce que si c'est juste pour étaler des dialogues sans fin, c'est pas intéressant non plus, quoi. Voilà, donc j'essaie de faire un mix entre tout ça pour que le lecteur, la lectrice s'y retrouve et puis passe un bon moment, tout simplement, parce que j'ai pas plus d'ambition que ça, quoi. Qu'on me dise après, ah bah c'était chouette, c'est quand le prochain Livius? Ah, je me suis bien marré. Dans le premier, on m'a dit, j'ai pleuré à la fin. Alors, j'étais plutôt content parce que faire rire, je trouve ça assez simple. Faire pleurer, c'était autre chose. Voilà, je voulais qu'il y ait de l'émotion. C'est un peu la question précédente. sur les émotions. S'il n'y a pas d'émotion à l'écriture, il n'y en aura pas à la lecture. Donc je me force à... Mais après, c'est l'exigence de l'écrivain de recorriger, de reprendre pour que ça ait du sens et qu'il y ait de l'émotion. Et quand je me relis 2-3 jours après et que je suis touché et que je suis en train de pleurer devant ma feuille ou en train de me marrer bêtement d'une connerie qu'a dit Livius ou un autre, bah, je me dis ça marche et je peux le garder. Quoi. J'ai pas envie qu'il y ait de passage fade. Les passages de transition, les chapitres de transition, il y en a toujours un peu. Mais alors, j'essaie de les réduire pour garder du rythme. Mais après, ils font 250-350 pages environ, les livres. Donc, c'est à la fois long, à la fois assez court. Donc, j'ai envie de...
Oui, bah, c'est réussi, on ne s'ennuie pas du tout. L'écriture, elle est très vive, très dynamique.
Merci.
Non, c'est vrai. Donc, voilà. Et alors, c'est quand le prochain Livius ?
Alors, le prochain Livius, c'est commencé. Au début, j'avais d'autres idées. Et puis, je me dis, mais j'aime trop Livius pour le laisser comme ça, l'abandonner. Surtout, voilà, après ce qu'il a vécu. Alors, une forme de trilogie, hein, quand même. C'est une trilogie,
c'est
même.
C'est une trilogie.
Donc, on retrouvera Livius, mais un peu plus tard, plutôt vers 2005, à peu près. Et j'ai trouvé un événement qui s'est passé à Nantes et je vais le faire correspondre avec la ville de Livius.
D'accord.
Et puis, privilège du romancier, c'est qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et donc, voilà, on va retrouver certains personnages, plus ou moins. Et puis, il y aura des nouveaux. Donc, c'est ça aussi que je crée des nouveaux personnages. Et puis, voilà, on retrouve d'autres qui ont grandi, qui ont évolué en bien ou en mal. Ça, ce sera à moi de les façonner. Alors, c'est pas simple quand on est rendu au quatrième parce qu'il faut une cohérence. Donc, ça me demande de faire des fiches pour quel âge a le grand-père, qui habite avec qui a telle copine, tel copain, qui fait quoi comme travail, lui, est-ce qu'il est proche de la retraite ou pas. Enfin, vous voyez quoi.
Alors justement, puisque vous parlez un petit peu de ça, de votre rythme de travail et puis de comment vous vous y mettez, est-ce que vous avez, c'est aussi un des buts de l'émission, c'est de faire découvrir un peu les rituels d'écriture. Donc, est-ce que vous avez des contraintes ? Est-ce que vous vous imposez des contraintes lorsque vous vous mettez à écrire ? Est-ce que vous avez des rituels d'écriture et de travail ?
Absolument pas. Mon seul rituel, c'est que je m'endors en pensant à mon histoire.
D'accord.
Parce que, alors parfois, je m'endors avec l'idée du siècle et je me réveille, elle n'est plus là, mais c'est pas grave. Mais voilà, j'allais dire rumine, mais non, parce que quand on rumine, c'est plutôt négatif. Je ressasse un peu je le modèle un peu, mon chapitre. Déjà, mon histoire, quand je repars là, par exemple, de zéro, avec ce quatrième épisode, voilà, qu'est-ce que je vais faire de Livius ? Je travaille, je cherche un événement, tu sais. Et puis ça commence à naître. Donc là, je prends quelques notes. Et puis, je mûris un peu mes chapitres. Je fais mon plan vaguement, que je ne respecte pas forcément après. Et puis, donc voilà, j'ai mon plan avec mes chapitres, un petit peu pour avoir une idée déjà de quelle taille fera le livre, voilà, pour avoir une idée. Et après, c'est quand c'est le moment, c'est le moment. Par exemple... Il est 23h, j'ai envie d'aller me coucher, mais j'ai une idée, et puis je me dis, tiens, c'est le moment de faire le chapitre, je vais faire le chapitre, ou un dialogue, ou quelque chose. Mais ça peut être à tout moment, quoi, un matin, le week-end, voilà. C'est après, donc j'ai deux enfants, donc faut essayer de trouver du temps, j'ai des activités aussi à l'extérieur, j'ai mon travail, je rentre du travail, voilà, et je suis pas un gros lève-tôt, donc... J'en connais qui se lèvent à 5h du matin, qui font de 5 à 7 rituels.
Oui, on
et tout
en connaît
ça.
Aussi, on en a rencontré dans cette émission.
Ouais. Et donc, voilà, je ne suis peut-être pas aussi assidu qu'il faudrait, mais par contre, une fois que c'est parti, c'est parti. Je suis capable, après, d'écrire 50 pages très très vite et sans avoir trop à les remodeler parce que je les ai déjà mûris. Certains écrivent, effacent tout, recommencent, voilà. Moi, j'ai tendance à le penser avant de l'écrire. Il n'y a pas de bonne méthode. Hein. Des fois, j'oublie des choses et donc ça, peut-être je perds des bonnes idées. Mais j'ai toujours un calepin qui traîne. Et puis voilà. Ou parfois, je suis sur mon vélo et puis je pense à... Et puis ça vient d'un coup, l'idée. Je dis, tiens, là, c'est par là qu'il faut aller. Là, je galérais. Là, j'ai écrit 50 pages de ce quatrième. Voilà. je trouvais que c'est, ça tournait en rond et tout ça. Et en fait, j'ai pris ça d'un autre côté. J'ai fait un pas de côté, ce que je dis souvent à mes patients. On va faire le pas de côté, puis on va voir ce qui se passe. Et donc, là, j'ai trouvé une approche différente pour raconter la même chose. Et là, ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que je suis content de moi. Après, ça marchera si les gens le lisent et l'aiment bien. Mais au moins, ce sera, je pourrais présenter ça à l'éditeur très tranquillement en disant ça c'est bon. Puis, j'ai pas de pression. Je me dis, si je mets 2 ans à l'écrire, alors les 3 premiers, forcément, j'en ai sorti 3
en
4 ans. Ouais, en 4 ans.
Donc, c'est assez dense.
C'est assez dense. Et c'est pour ça que souvent on me dit alors le prochain Livus, bah oui, mais je dis c'est pas aussi simple que ça. Alors peut-être ça paraît simple parce que 3 en 4 ans ça va vite. Mais non, j'ai pas de pression de temps. Donc, mais j'y reviens parce que j'en ai besoin, j'en ai envie et puis ça me plaît. J'ai envie de malmener un peu mes personnages. J'en ai besoin pour moi aussi parce que ça me fait du bien. Et puis après, l'aboutissement c'est quand effectivement quand il est terminé quoi. Quand bien même, c'est difficile de le terminer, puisque ça, tout le monde a dû vous le dire. Il faut, à un moment, faut envoyer le manuscrit, ne plus y toucher, parce que ça devient insupportable. On le relit 1000 fois, on change une virgule.
Est-ce qu'il y a dans votre enfance ou dans votre adolescence des lectures qui auraient suscité en vous, qui auraient marqué votre expérience de lecteur plus jeune et qui auraient suscité la vocation d'écrivain futur ? Et le chat, qu'est-ce qu'il en pense ?
Y a des lectures, il y a tout un tas de lectures en fait. J'avais la chance d'avoir des livres chez moi, je m'en faisais offrir, j'avais pas la tentation de l'écran ou internet. Donc je lisais. Alors les trucs de mon âge, Club des 5, ce genre de choses, toujours un peu d'aventure, de mystère, de policier, même tout petit. Après ça a été les Jules Verne, après ça a été du Sherlock Holmes, après ça a été du Stephen King, du Lovecraft, Edgar Poe, enfin voilà tout ça. Bon, et puis 45 ans, je m'ai écrit un livre, donc tout ça est inspiré de quoi en fait. Mais tout comme j'ai lu Fluide Glacial pendant des années, donc l'humour potache absurde, voilà. Tout comme je regardais le Monty Python Flying Circus, alors il n'y a que moi que ça faisait rire, un ou deux copains au lycée, mais sinon c'était tellement absurde, ça n'avait pas de sens. Voilà, et tout ça, des films les plus absurdes, y a-t-il un pilote dans l'avion, ce genre de choses, mais j'ai toujours trouvé ça très très drôle. Après, chacun ses goûts. Mais voilà, tout ça, c'est ingéré, et puis au moment où ça ressort, et ben voilà. Mais l'important, c'est d'avoir lu, en fait. Quoi.
Oui, bien sûr.
L'imagination. Alors, première chose, l'imagination. Donc, on me disait toujours, j'étais dans la lune, dans mes rêves, machin. Mais je revendique d'être dans la lune. Même si en cours, ce n'est pas toujours facile. Et puis, de la lecture, quoi, pour voir un peu comment ça se passe. Quoi. Sans lire en se disant, tiens, l'histoire, elle est construite comme ça, parce que sinon, on passe à côté. Mais au moins, pouvoir avoir suffisamment de lecture en soi pour, à un moment... puiser dans sa banque de données pour pouvoir distiller et dire ce qu'on a envie de dire quoi. Parce que quand on relit quand on lit mon livre, on voit comment c'est construit justement. Bah voilà, il y a des codes quand même qui sont un peu communs, oui. à pas mal de monde quoi. Mais après faut se différencier sur l'humour, sur le style, sur l'intrigue, sur le cheminement, enfin voilà, c'est ça qui fait la différence entre un auteur ou un autre quoi. Et tant mieux si on arrive à trouver son style, quoi, en fait, quoi. C'est ça le plus important, je pense, pour pas faire... je vous disais tout à l'heure, j'avais écrit mes 30 pages avec le policier. Et en fait, j'ai relu un Fred Vargas peu après. J'avais fait du Fred Vargas. Donc, je dis, non, c'est pas mon style. Il faut que je change. C'est pour ça que j'ai pris journaliste. Je dis, ça, c'est moins fait, déjà. Voilà, quoi. Parce que on peut vite tomber dans une sorte de copie si on est trop imprégné de telle ou telle lecture, quoi.
Il faut se faire confiance aussi, parce que c'est difficile justement de s'émanciper de tout ça, de tous les codes.
Oui. Fin... Après, moi, j'ai fait le constat de voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, donc les émotions, connaître les gens, qu'est-ce qui me fait rire, les blagues potaches, les blagues voilà. Et ben voilà, on va mixer un peu tout ça.
Vos ingrédients.
On va faire un perso. En fait, voilà, les ingrédients, on les a en soi, quoi. Et puis, j'écris parce que j'aurais pu sculpter, peindre, voilà. Après, chacun son talent et chacun son voilà. si j'avais été noyé dans le dessin toute mon enfance, peut-être, peut-être j'aurais fait de la BD ou je peindrais ou je ne sais pas quoi. Là, il y avait des bouquins, je lisais et à un moment, bah, c'est devenu naturel. Et puis l'essentiel, c'est de...
Trouver une voie d'expression. Quoi.
Oui, voilà, ouais. Et puis, ce que je dis à mes patients, c'est quoi votre talent, hein ? Ils ne trouvent pas souvent, mais on cherche ensemble. Et puis, on finit par trouver, quoi. Voilà.
Voilà, la dernière question en guise de générique, c'est si vous deviez associer votre travail ou votre univers ou Ligius ou ce que vous avez déjà écrit à travers ces trois romans à une chanson, ce serait laquelle ? Ça doit être difficile pour vous parce qu'il y a beaucoup de références.
Alors, je précise qu'on ne s'est jamais rencontré, que vous ne m'avez pas prévenu, mais je sais déjà, c'est Common People de Pulp. Voilà, l'histoire d'un gars qui croise une fille au supermarché, elle lui plaît, il va discuter, et puis elle lui dit, voilà, je suis un peu riche, je suis un peu bourgeoise, tout ça, et j'ai envie de vivre comme les gens, comme Common People, quoi, comme les gens normaux, quoi. Et voilà, et lui, il est complètement Common People. Et il essaie de lui expliquer que bah non, ça vaut pas le coup et qu'il faut essayer, voilà quoi. Et c'est un peu Livius, c'est un peu Eileen, c'est un peu tout ça quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être un peu commun ou est-ce que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu hors du commun ? Et Livius, il s'efforce de faire ça, des choses hors du commun. Voilà, qui c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, c'est être un peu différent en fait quoi, sortir un peu du lot, sortir de la masse, s'extraire, ce qui est pas évident forcément, mais voilà et en fait je me suis rendu compte en que je mets une petite playlist à la fin de chaque
ça c'est de votre initiative, c'est pas l'éditeur.
Oui non, en fait je sais plus alors, si je lui ai proposé ou s'il m'a dit tiens j'ai vu faire ça mais en tout cas c'est quelque chose qui marche bien, les gens sont quand je suis en salon je leur montre ah ouais c'est sympa, surtout quand ils connaissent les groupes de rock indé que j'ai pu mettre, que ce soit Pixies ou Cure ou Blur, etc.
Mais Livius, c'est déjà une playlist à lui tout seul.
Hein, Livius, oui. Livius, voilà, c'est...
Il y a quand même beaucoup de musique autour musique, de lui dans son quotidien.
Il y a une musique dans sa façon de parler, dans sa façon de penser.
Oui, et puis même, il fait référence à beaucoup
c'est
de
ça,
titres
c'est
aussi
ça.
De rock.
C'est pour ça
que
c'est listé à la fin de... Effectivement, il va à l'Olympique voir Pulp, il va au Floride, il y a Cure, il y a... D'autres.
Il rentre chez lui, il met...
Voilà, il met Wedding Present à un moment, il met... Voilà. Et puis, il y a du classique, parce qu'à un moment, ils vont voir une petite dame qui écoute du classique. Voilà. Il y a même des chansons, parce qu'il y a un nostalgique de l'Allemagne des années 30-40, dans le deuxième, et donc lui, il écoute des musiques militaires allemandes, et j'ai trouvé une référence, donc voilà, vous pourrez aller écouter ça. C'est spécial.
Bien, merci beaucoup Benoît Bernier
pour merci.
Cet entretien
merci
et puis
beaucoup.
À très bientôt alors pour les aventures
avec grand
de
plaisir
Ligius.
Avec grand plaisir, merci. Anyone else smiling? Are you sure? You want-